des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Alexandre Moranville-Ouellet.
Cube Radio.
Incorruptible défenseur de la vérité, il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellet.
Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, à Cube Radio. Autre journée, autre fusillade à Montréal. Un homme de 31 ans qui a été blessé par balle près d'un hôtel du quartier Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, tôt ce matin, vers 4h15. Des détonations qui ont été entendues près du bâtiment. La police de Montréal qui a été appelée sur place. On a retrouvé des douilles et quelques heures plus tard, un homme, je le disais, 31 ans, se présente au centre hospitalier pour soigner une blessure par balle au haut du corps. Et donc, un autre périmètre de sécurité est érigé en ce moment par le SPVM pour tenter de recréer la scène. Il y en a de la violence par arme à feu. Heureusement, il n'y a pas de décès dans ce cas-ci, mais c'est un autre incident et il se multiplie encore ces jours-ci. Vraiment, un été chaud à Montréal, comme on s'y attendait. Mais sincèrement, ça reste inquiétant. Sinon, hier soir, une nouvelle qui a secoué, oui, les États-Unis, mais le monde aussi, tous ceux qui suivent tout ce qui se passe dans la politique américaine. Donald Trump, sa résidence de Mar-a-Lago, sa célèbre résidence de Floride, a été perquisitionnée hier soir par le FBI. Une perquisition qui n'était pas attendue du tout du côté de l'ex-président américain qui a vivement dénoncé tout ça sur Truth Social et sur ses autres réseaux. Une perquisition qu'on n'attendait pas ou qu'on attendait, dépendamment si on était informé ou pas, du milieu, parce qu'on sait qu'il est visé par plusieurs enquêtes. Oui, il y a celle de l'insurrection du 6 janvier. Évidemment, le comité qui se penche sur les actions de Donald Trump liées à l'insurrection du Capitole qui pourrait porter des accusations éventuellement. Mais il y a aussi l'autre dossier, la mauvaise gestion des documents classifiés qui ont été envoyés à Mar-a-Lago. Parce que depuis 1978, il y a une loi aux États-Unis qui garantit que les présidents ne peuvent pas partir avec les documents officiels. Ils ne peuvent pas les emmener avec eux. Ils doivent les léguer aux archives nationales. Et Donald Trump, dans les mois qui ont suivi son retrait de la présidence, eh bien, on a appris qu'il était parti avec certains de ses cartons de documents dont certains seraient classés secret défense, qu'il n'a absolument pas le droit de faire. Et on dit, selon certaines sources, que ce serait en lien avec cette enquête-là qui est faite. Il avait dû retourner certains cartons là, qui avaient été réquisitionnés par les archives nationales. Il pourrait y en avoir d'autres. Il y a également plusieurs rapports qui présentent le fait que Donald Trump aurait même déchiqueté certains documents pour tenter de les flusher, en bon québécois, dans les toilettes, ni plus ni moins. Photos à l'appui. Bref, tout ça, ce qui est important de suivre, surtout à la suite de cette nouvelle-là, c'est que ça secoue le monde des complotistes, entre autres, et des partisans fervents de Donald Trump qui ne cessent de ressasser de vieilles histoires et qui attisent, ni plus ni moins, la peur des autres supporters en disant que si ça peut arriver à un ex-président, ça peut arriver à n'importe qui. Je vais vous annoncer une nouvelle. Oui, c'est comme ça que fonctionne le système de justice. Que vous soyez le président, que vous soyez Jésus de Nazareth lui-même, vous n'êtes pas au-dessus des lois. Il n'y a personne qui l'est. Et même si vous êtes l'ex-président américain, si vous avez commis des crimes, eh bien, on va vous charger pour ces crimes et on va vous poursuivre. Moi, je trouve que c'est une nouvelle réjouissante. Et comme je le dis, il y a des gens là, qui appellent ni plus ni moins aux armes parmi les supporters les plus ardents de Donald Trump. Et même si certains réseaux sont accusés d'avoir lâché par la base de Donald Trump, d'avoir lâché l'ex-président, on parle entre autres de Fox News, eh bien, hier, sur les ondes de cette même chaîne, dans les heures qui ont suivi, on a prononcé le nom de Hunter Biden, le fils de Joe Biden, sur lequel on pousse toutes sortes de théories du complot fumeuses par rapport à son fameux ordinateur portable. Eh bien, son nom a été prononcé 46 fois. 46 fois minimum dans les heures qui ont suivi à Fox News. Bref, il n'y a rien qui change, mais ça pourrait quand même amener des nouveaux développements dans ces histoires-là. Sinon, hier, il y a un comité qui a tenu une réunion d'urgence, le comité des transports de la Chambre des communes, qui a annoncé vouloir enquêter sur les retards dans les aéroports et les annulations de vol des transporteurs. Vous savez comme moi que c'est une période estivale assez difficile. Merci pour partir en voyage. Il y a eu la crise des passeports, il y a des files d'attente épouvantables aux aéroports, il y a des vols qui sont annulés un peu partout. Et donc, c'est sur ces événements-là qu'on veut faire la lumière. Sur ce comité, Simon-Pierre Savard-Tremblay est député bloquiste de Saint-Hyacinthe-de-Bagot et donc siégeait hier sur ce comité. Bonjour, M. Savard-Tremblay.
Bonjour, M. Morinville-Ouellet.
Tout d'abord, qu'est-ce qui a justifié hier une réunion d'urgence de ce comité?
Je dirais en fait qu'une réunion d'urgence est généralement justifiée par l'urgence de la situation. C'est-à-dire, ce qu'on a vu dans les dernières semaines, c'était pas très beau. Ça aurait pas dû nous surprendre hein, qu'après deux ans et demi comme ça de pandémie, que les gens aient envie de voyager soudainement. Ça fait deux épisodes qu'on voit la gestion des aéroports, puis juste avant la gestion des passeports qui nous laisse entendre qu'on n'était pas prêt à ce point-là. Mais ce qu'on a vu, là, ce qu'on a entendu, là, c'était pas très beau. C'est-à-dire, on a entendu des témoignages, là, il était question d'enfants qui auraient entendu assis par terre pendant 30 heures. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable en 2022 dans un pays comme le nôtre.
Hier, dans votre réunion, vous avez voté à l'unanimité pour vous pencher sur les retards, sur les annulations. Qu'est-ce qui a été décidé, entre autres, là, de faire du côté du comité?
En fait, ce qui est important, c'est de recevoir le ministre des Transports, parce que le gouvernement, il est imputable. Il faut qu'il nous réponde. Il faut qu'il justifie ses politiques. Il faut qu'il justifie aussi ses non-politiques, c'est-à-dire son inaction dans bien des domaines. Qu'on parle de Arifian, qui est cette application qui a causé plusieurs problèmes, qui, en théorie, là, sur papier, est censée faciliter les choses parce qu'on dit on fait notre déclaration d'avance, mais qui, dans les faits, sur le terrain, si on se fie, par exemple, à ce qu'au syndicat des douaniers nous a dit, dans les faits, ça vient plutôt retarder les choses. Le syndicat des douaniers nous dit hey, on a des gens qui on a de la misère à gérer l'ensemble des tâches, puis là, vous nous demandez, en plus de numériser un code en arrivant pour les citoyens qui atterrissent, pourquoi on n'envisagerait pas autre chose? C'est pour ça que nous, par exemple, là-dessus, on prône la suspension temporaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'abolir complètement. Ça ne veut pas dire que tout est à rejeter dans cette application-là que plusieurs personnes, sans doute, qui nous écoutent, ont eu à utiliser dans les derniers jours, en ce deuxième jour post-vacances de la construction. Mais ça veut dire à tout le moins que la suspendre temporairement, prendre le temps de l'étudier, regarder comment ça pourrait être mieux, ça serait sans doute la solution la plus lucide pour l'instant. D'ailleurs, en Europe, c'est une déclaration en ligne que vous faites de chez vous. Merci, bonsoir. Pourquoi pas quelque chose comme ça ici, c'est à aborder.
Ouais. Alors, vous voulez que Omar Al-Ghabra, donc le ministre fédéral des Transports, s'assoie devant le comité, doit comparaître. Quelle réponse vous espérez qu'il vous donne sur ces divers sujets-là? Est-ce que vous avez des questions déjà que vous avez, là, qui vous brûlent les lèvres de lui poser?
Ben écoutez, il y a plusieurs justifications, pas tant uniquement du ministère des Transports, mais aussi au niveau du gouvernement de manière générale. Par exemple, comment se fait-il que l'industrie du transport n'a pas été soutenue, par exemple, de la même manière que ça s'est fait aux États-Unis ou en Europe dès les débuts de la pandémie? Ça a pris plusieurs mois, il a fallu qu'il y ait un changement de ministre des Transports même pour que ça commence à se faire. Il me semble que ça aurait dû être prévu. Comment se fait-il qu'on n'a pas soupçonné que les gens auraient envie de voyager après deux ans et demi de crise comme ça? Comment se fait-il également que la pénurie de main-d'œuvre, parce que ça, j'imagine d'emblée que c'est la réponse qui va nous être servie, parce que la pénurie de main-d'œuvre fait qu'il y a un problème criant de personnel dans les aéroports. Comment se fait-il que ça n'a pas été davantage abordé et que le gouvernement s'est entêté aussi longtemps à défendre, par exemple, la PCU devenue PCRE par la suite? Il y a toutes sortes de questions comme ça qu'on peut poser. Et le gouvernement aussi, à mesure que les différentes oppositions poussaient pour qu'il y ait un plan de déconfinement. Ça ne veut pas dire un déconfinement immédiat, mais un plan comme l'ensemble des gouvernements des provinces l'ont fait, c'est-à-dire qu'on sache étape par étape ce qui va être fait, qu'on le sache à l'avance et qu'on sache pourquoi c'est fait aussi, qu'on puisse débattre de chaque étape. S'il y avait eu cette prévisibilité-là, probablement qu'on n'en serait pas au niveau où on l'est maintenant.
Il y a quand même aussi une certaine responsabilité qui peut incomber aux transporteurs aériens. Hein. Les compagnies aériennes ont augmenté leurs offres parce qu'ils voulaient avoir leur part de marché, faire de l'argent, mais ils ont même pas pris en compte, dans plusieurs cas, leur capacité au niveau de main-d'œuvre, d'opération, d'infrastructure à être capable d'offrir ces vols-là. Est-ce qu'il va y avoir des PDG de compagnies aériennes qui vont être convoqués également?
Écoutez, ça serait sans doute abordé. Là, notre priorité, bien sûr, était au niveau politique, parce qu'on le gouvernement doit être imputable non seulement aux citoyens, oui. mais aussi aux élus des citoyens.
Oui.
Les oppositions en démocratie, ça sert à ça aussi. Donc, ça pourrait éventuellement être une idée si l'étude est poursuivie. Mais ce que vous dites est tout à fait pertinent, puis je vais vous dire, il est absolument scandaleux que Air Canada, par exemple, ait annoncé hier qu'il n'y aurait pas de remboursement pour les annulations de vol. C'est inconcevable. Un citoyen qui remplit sa part du contrat, c'est-à-dire de dire « j'utilise mon argent durement gagné pour acheter un billet d'avion, je me rends à l'aéroport », ben il me semble qu'il doit s'attendre à ce que la compagnie aussi remplisse sa part du contrat, c'est-à-dire d'offrir le service.
Mais allez-vous les forcer à rembourser les gens du côté d'Air Canada?
Ben écoutez, je vous dirais en fait que de manière générale, il y a un trou dans la législation, il y a un trou dans la réglementation. Si on regarde par exemple ce qui se passe du côté des États-Unis ou de l'Europe, il y a des réglementations beaucoup plus sévères, et si un transporteur refuse de rembourser, il y a une amende, tout simplement. Ben, il faudrait en arriver à une forme de réglementation qui serrerait la vis davantage aux compagnies comme ça.
Mais prévoyez-vous tenter de l'implanter, cette législation-là?
Oui, absolument. Regardez, nous, on n'a jamais de problème avec à pousser pour des propositions. Et puis, comme vous savez, en politique, tout est souvent question de momentum. Là, je pense qu'on en aurait un pas pire. Fait que si le gouvernement est prêt à nous entendre, qu'il le fasse, on va être les premiers à les féliciter et à les remercier pour ça.
Là. Vous parlez de changer de législation, là, un peu partout dans le monde, on peut, du côté des aéroports, ordonner aux transporteurs de réduire leur nombre de vols. On se rend compte, là, du côté de l'aéroport, que ben, l'offre est impossible, les infrastructures ne sont pas suffisantes et autres. Ici, c'est malheureusement impossible. Ça pourrait expliquer en partie là, certaines congestions dans les aéroports, entre autres à Toronto. Est-ce que vous comptez changer aussi cette législation-là pour donner plus de pouvoir aux aéroports eux-mêmes?
Écoutez, ce serait sans doute à aborder également. Comme je vous dis, on ne part pas avec des préjugés, avec des prérequis. L'idée de ce comité-là, c'est l'étude. C'est qu'on va aller écouter justement l'ensemble des acteurs. On va aller écouter ceux qui ont à s'expliquer là-dessus, puis après ça, on pourra voir ce qui est le mieux par rapport à tout ça. On part pas avec, disons, une idée idéologique des choses là, par rapport à tout ça. Là. Donc, ça sera sans doute une idée à aborder. Et puis, savez-vous d'ailleurs que la charte des voyageurs qui défend les droits des voyageurs ne s'applique pas aux aéroports et aux ports fédéraux? C'est quand même assez curieux aussi quand on regarde ça.
Oui, c'est curieux. Pour ce qui est du... en terminant, là, qu'est-ce qui est à l'horaire? Qu'est-ce qui est à l'agenda maintenant pour votre comité? Est-ce qu'il y a des audiences qui sont prévues cette semaine, dans les prochaines semaines, prochains mois?
C'est très imminent, là. C'est très imminent, mais il est prévu essentiellement d'abord que dans le cadre des prochaines séances, il y ait la présence du ministre. Et ça, je vais vous dire que c'était pas gagné d'avance. Ça, c'était le grand combat qu'on avait amené et qu'on reçoive également le syndicat des douanes, parce que ce sont eux et elles qui vivent cette situation-là au quotidien.
Simon-Pierre Savard-Tremblay, député bloquiste de Saint-Hyacinthe-Bagot et membre du comité permanent des transports, d'infrastructures et des collectivités. Merci d'avoir été là.
Merci à vous.
Au revoir.
Alexandre Moranville-Ouellet. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Tout en débattant des enjeux de société.
L'espace. On a des nouvelles de dernière heure, si je ne m'abuse, du côté d'Hockey Canada. Mathieu Boulay, nous qui suivons ce dossier-là quand même depuis le début de l'été, il y a du nouveau, là.
Ah oui, hey Alex, bon matin. Moi, à chaque matin, là, je me demande tout le temps si on va avoir un communiqué de presse qui va nous tomber dans le visage juste avant ma chronique. Et encore une fois, ce matin, Hockey Canada se surpasse encore une fois. Là, il mentionne dans un communiqué de presse qui vient d'arriver dans ma boîte de courriel comme quoi que ils vont convoquer une réunion extraordinaire avec ces 13 associations provinciales. Mais c'est étrange parce que les 13 associations provinciales ont demandé ça en fin de semaine à Hockey Canada. Ça, c'est comme dirait l'autre, c'est assez évident là, qu'il va y avoir une rencontre extraordinaire. Mais Hockey Canada veut se donner le crédit de ça, mais en fait, c'est les associations provinciales qui ont poussé pour ça, parce que là, ils sont tannés de lire tout à travers les journaux, puis ils veulent demander des comptes directement à Hockey Canada. Et on le sait, il y a des choses et des conséquences là avec tout ce qui arrive. C'est que il y a un premier paiement des cotisations à Hockey Canada qui doit arriver le 1er décembre. Et les associations provinciales ont décidé de mettre leur culotte puis de dire « Hey, si on n'a pas des explications claires, ben on retient l'argent. » Alors que Canada, présentement, n'a pas les moyens de retenir cet argent-là, Alex, tout simplement parce qu'ils ont perdu tellement de commanditaires, ils ont perdu des subventions fédérales. Tu sais, là, les subventions sont encore gelées là, par Mme Saint-Onge au fédéral.
Ouais.
Alors, Hockey Canada n'a pas vraiment moyen de perdre ces cotisations-là qui arrivent à coups de millions de dollars dans leur coffre. Et de l'autre côté, il y a eu également une autre annonce dans ce même communiqué de presse-là, c'est que Michael Brenamo, comme on le sait, a démissionné samedi matin 9h. Pour le remplacer, le conseil d'administration a voté pour mettre Mme Andrea Skinner, qui va finir le mandat de M. Brenamo, qui devait se finir novembre 2022. Je me pose la question à savoir quel pouvoir que Mme Skinner va avoir dans tout ce bordel-là. Parce que présentement, le problème, il réside vraiment pas au niveau du conseil d'administration. Oui, ils ont une part de blâme. Mais c'est au niveau de Scott Smith, du PDG, qui s'accroche au pouvoir comme si la vie en dépendait. Mme Skinner est capable de convaincre Scott Smith de partir. Déjà, en partant, il va avoir une partie du problème de régler. Mais il faut que tu t'ailles un bon remplaçant pour M. Scott Smith. Mais pour le moment, ça va rester comme ça. Et cette semaine, ça amène un autre point, Alex. Cette semaine-là, c'est l'équipe Canada Junior, c'est le camp d'entraînement et le début du championnat mondial de hockey junior qui devait avoir lieu au mois de décembre, janvier, au début de l'année. Mais là, ils remettent ça là. T'imagines-tu, en plein mois d'août, on fait un championnat mondial de hockey junior.
OK.
Et là, l'intérêt là est nul. C'est nul. Puis, hey, avec tout ce qui s'est passé depuis quelques mois, t'as-tu le goût d'écouter de hockey junior? Moi, j'ai zéro le goût. J'ai zéro le goût d'écouter ce championnat du monde-là. Et c'est pas de la faute aux joueurs qui sont là dans l'édition actuelle. C'est juste Hockey Canada, tout ce que ça a représenté depuis quelques... Tout ce qu'on a vu depuis quelques semaines, moi, j'ai zéro le goût de suivre ce championnat-là parce que c'est de l'argent qui s'en va des coffres de Hockey Canada. Alors, je suis encore moins intéressé parce que le ménage n'est pas encore fait.
Non, ils ont beau nommer une femme par intérim, ça va pas nécessairement changer. C'est un bon geste, là, quand même. Là, c'est le minimum, le gros minimum qu'Hockey Canada devait faire. Là, on va dire ça comme ça. Mais oui, qui déclare la rencontre extraordinaire. C'était la moindre des choses aussi. Ils vont essayer de prendre le crédit. C'est un peu pathétique, mais là, dès qu'on menace de couper le pipeline d'argent, c'est drôle, hein? Là, tout d'un coup, on est tellement rapide et proactif. Mathieu, on continue de suivre ça, là. Merci pour les nouvelles de dernière heure là-dessus. Mathieu, aujourd'hui, là, je fais ma révélation. Je m'en vais voir ce soir le tennis ici à l'Omnium Banque Nationale. Et il y a même des gens ici à Cube Radio aussi qui s'y ramassent cet après-midi. Et je te jure, Mathieu, je n'ai même pas regardé la programmation aujourd'hui parce que j'avais hâte que tu m'en parles puis que tu me parles à savoir si la pluie va venir interrompre ma belle journée.
Hey, là, je pense que Eugène Lapierre là, va faire une promotion « Apportez votre parapluie ». c'est dommage parce que là ce matin il pleut encore. En tout cas moi dans le nord à Blainville il pleut encore. Hier Denis Shapovalov arrive sur le terrain, moi je me croise les doigts, je disais j'espère juste que le match va se terminer. Évidemment en plein bris d'égalité de la deuxième manche, la pluie est arrivée, mais c'est un torrent assez incroyable. La journée s'est terminée comme ça. Et là aujourd'hui un calendrier ultra chargé à l'Omnium Banque Nationale. Ça commence dès 11h, si la température peut le permettre, avec les matchs au sud central de Vachek Pospisil. Ensuite, c'est suivi de celui d'Alexis Galerneau, un Québécois. Et après ça, c'est le complément du match d'hier de Shapovalov contre Alexis Dominar. Et après ça, on a Nick Kyrgios. Je te dis, manque pas ça.
Wow.
Nick Kyrgios, c'est un spectacle à ne pas manquer sur le central. Et par la suite, les matchs de soirée avec en ordre Andy Murray et Diego Schwartzman. Et je te dis, il y a de l'action. Tous les terrains sont occupés à pleine capacité. Et tu vas en avoir pour ton argent. Si, mettons, sur le court central, ça t'intéresse moins, sur les courts secondaires, il va y avoir de très bons matchs. Mm. Je surveille dans le court numéro 5, le quatrième match de la journée entre Hugo Père et Yoshi Nishioka, qui est possiblement le prochain adversaire de Félix Auger-Aliassime, le premier adversaire de chez Félix Auger-Aliassime demain. Félix doit jouer demain sur le central en soirée. C'est ça qui est prévu dans le plan de match. Est-ce que ça va changer en cours de route? Je ne sais pas, mais pour le moment, il y a certains joueurs qui jouent aujourd'hui qui pourraient être forcés de jouer demain deux matchs. Une chance que ça n'en est pas dans un grand chelem où tu as des 3, de 5, de 7, mais quand même, deux matchs la même journée, puis c'est pas du tennis de touriste, là. C'est vraiment du haut niveau. Certains joueurs, j'ai hâte de voir comment ils vont se dire. Tu sais, c'est sûr certain que c'est les qualifiés, les joueurs qui sont moins bien classés, qui sont un peu désavantagés par ça, mais les têtes de série sont tout le temps plus protégées par ce genre de situation-là parce que justement, ils ont un statut, puis sont dans les meilleurs au monde. Fait que c'est plus les qualifiés et les joueurs moins bien classés qui sont un peu victimes d'un calendrier un peu bousculé. Là, j'ai très hâte de voir comment que les dirigeants de l'équipe de la Dominion Banque nationale vont gérer la situation parce que les deux premières journées de la semaine, Alex, c'est la pire affaire qui peut pas arriver d'avoir de la pluie parce qu'il y a beaucoup de matchs qui se jouent. Quand c'est plus vers la fin de la semaine, ben ils sont capables de gérer ça assez facilement. Il y a d'autres courts, tout ça. Mais là, présentement, là hier, là je te dis, les dirigeants, là on me dit qu'Eugène Lapierre, quand il a commencé à mouiller dans la journée, il s'est enfermé dans un bunker avec les gens de l'ATP pour refaire le calendrier, pour dire hey, comment qu'on arrange ça, comment qu'on fait les choses. Puis Eugène, là, d'après moi, aujourd'hui, va se retourner dans son bunker pour pouvoir gérer encore la journée de mercredi parce que c'est tout un casse-tête. Et des fois, c'est que c'est pas nécessairement qu'il pleut pas, c'est vraiment le séchage du terrain. Hier, là, j'en revenais pas. Pendant 2 heures de temps, il mouillait pas. Le terrain avait l'air sec. Mais là, je dis, hey, je tourne vers mes collègues, je suis comme, pourquoi ça joue pas? Là, ils me disent, ben là, tu sais, les lignes, c'est plutôt glissant, banana, nanana. Là, j'étais comme, ben voyons donc. Là, je dis, ça va aller sec, là. Je te dis, moi, je suis pas un grand connaisseur en termes de séchage de terrain.
Non.
Mais j'ai trouvé ça un peu décevant parce que pendant 2 heures, on a comme perdu 2 heures là-dedans, là, où ce qu'on Vavrinka puis Russo Viori, le Finlandais, aurait très bien pu jouer le premier match de la journée, mais le premier match de la journée, c'est joué à 4 heures au lieu de midi. Fait que t'imagines-tu l'effet de domino, là? C'était partout, dans tous les terrains, c'était pareil. Fait que là, on va se croiser les doigts qu'après aujourd'hui, là, plus de pluie. Dame nature, prenez une pause. On n'a plus besoin de pluie, là. C'est fini.
On le souhaite. La seule bonne nouvelle, c'est que les gens qui ont amené leur parapluie puis qui assistent au match de Nick Kyrgios vont être à l'abri si jamais il se prend une envie de cracher sur un spectateur encore. Ils vont pouvoir bloquer. Ça, c'est une excellente nouvelle. Écoute, l'Omnium Banque Nationale, c'est pas juste à Montréal, c'est à Toronto aussi en simultané. Oui. Il y a des matchs de femmes et Leila Fernandez jouait.
Oui, tout à fait. Hey, ma collègue Jessica Lapinski est à Toronto. Elle vit les mêmes hauts et bas de la température comme moi. Elle, c'était plutôt en journée où elle était retardée. Il y a eu un retard de 2h30 en raison de la même pluie qu'on a eue à Montréal en soirée. Et finalement, le match de Leila Fernandez a fini très tard, vers 23h30, heure de Montréal. Et Leila Fernandez l'a emporté en 3 manches contre Storm Saunders, une Australienne qualifiée. Et ça n'a pas été facile pour Leila, mais Leila, faut le dire tout de suite, c'est un retour à la compétition. C'était son premier match depuis sa blessure à Roland-Garros. Donc, d'après moi, il y avait un peu de rouille. Puis il ne savait pas non plus, Leila Fernandez, que je comprends aussi, c'est qu'elle n'avait pas beaucoup joué, elle n'avait pas beaucoup pratiqué non plus. Elle a décidé un peu à la dernière minute de participer au tournoi de Toronto, mais hier, ça n'a pas paru. La blessure, là, elle a regardé sa cheville une couple de fois. Je sais pas s'il y a eu un inconfort, mais je pense plus que Leila Fernandez, une victoire à l'arraché hier, mais moi, je pense plus qu'il y avait beaucoup de rouille dans son jeu. Je pense qu'elle va prendre son rythme de croisière, puis elle pourra faire un bout de chemin dans ce tournoi-là. Mais elle a démontré des très belles choses encore une fois hier, mais tu sais, évidemment, au deuxième manche, c'était plus difficile. Stern Saunders, qui était plus une joueuse de double, est pas arrivé sur le terrain en voulant dire ben je vais donner la victoire en 2 manches puis je vais retourner chez nous. Non, ça n'a pas été ça, puis Saunders a donné toute une opposition à Fernandez, puis je pense que c'est la meilleure entrée en matière pour Leila, parce que ben si t'as pas d'opposition dehors des premiers matchs, là, ce que tu vas en avoir, comment tu vas réagir, même si t'es une battante, ben des fois, c'est bon d'avoir de l'opposition dès le départ, comme elle a eu hier. Puis je pense que c'est rien que positif pour la suite des choses.
Mathieu, nouvelle de dernière heure sportive majeure qui nous tombe dans les bras en ce moment. Puis c'est du tennis, hein, on est vraiment sur le sujet. Serena Williams a confirmé au magazine Vogue dans une entrevue qui est parue aujourd'hui qu'elle va faire ses adieux au tennis. Prévoit prendre sa retraite après sa prochaine participation au US Open. Et Serena Williams, c'est un monument, mon Dieu, du tennis féminin.
Tout à fait. Mais Alex, je suis pas vraiment surpris de ça parce que il y avait des rumeurs un peu qui circulaient à Wimbledon à ce sujet-là. Puis Serena est arrivée à Wimbledon est arrivée là, puis on sentait pas qu'elle était un peu nostalgique, un peu mélancolique, si tu veux. Elle était là, puis elle parlait beaucoup au passé. Ben j'ai beaucoup apprécié. T'sais, elle avait beaucoup de pensées par rapport à son parcours, plus qu'à ce qui se passait devant elle présentement. Alors, je suis pas vraiment surpris, Alex. Puis elle veut pas, elle a beaucoup de projets à l'extérieur du terrain. Son après-carrière est déjà prêt. Fait que qu'elle dise qu'elle avait prêt à boucler la boucle avec le US Open dans son pays, dans sa ville à New York, je suis pas vraiment surpris. Puis je pense que ma collègue Jessica Lapinski va avoir sûrement beaucoup de choses à écrire à New York parce que c'est une grande dame, c'est une des meilleures joueuses de l'histoire. Malheureusement, elle voulait battre le nombre de le record du tu sais atteindre gagner un autre grand chelem, puis ça a pas été capable de le faire. Donc malheureusement, ben elle va tomber. Je pense qu'elle avait gagné 20 ou 21, elle voulait en gagner un 22e, puis elle a pas réussi. Mais c'est peut-être le seul regret qu'elle va avoir parce qu'on parle d'une grande carrière, puis elle là, les clés du temple de la renommée du tennis, ben elle les a déjà dans son trousseau. Il suffit rien que de savoir c'est quand qu'elle va être détronisée.
Oui, c'est sûr. Puis en plus, là, elle a 40 ans quand même. Elle a joué excessivement longtemps.
Ouais.
Puis tous les feux vont être sur elle au US Open, c'est certain. Imagine, Mathieu, imagine la belle histoire si elle finit par remporter encore une fois un grand tournoi majeur à New York, comme tu le dis, chez elle, aux États-Unis. Ça serait complètement fou. Je pense que ça va vraiment être elle, le centre d'attention du tournoi à venir. Mathieu Boulay, on reviendra avec le reste de ces nouvelles-là et de l'analyse, là, donc de cette retraite de Serena Williams, qui, je le rappelle, là, après le US Open, va se retirer définitivement du tennis à 40 ans. Merci, Mathieu. On s'en parle demain.
Bonne journée au tennis à tout le monde.
Hey, salut.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial, cube.radio. Ou 1-877-827-2346.
187 Cube Radio.
Cube Radio.
Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Si y a des gens qui sont avec moi en studio, qui viennent me rendre visite, des collègues ici pas loin, il y en a beaucoup qui ont pu réaliser que je suis un amateur, un amoureux du papier. Ce que vous entendez en ce moment dans le micro, qui vous a peut-être déchiré les tympans, je m'en excuse. Je suis quelqu'un qui a besoin de toucher du papier, d'avoir un livre en papier. Moi, les liseuses électroniques, ça m'a jamais attiré. C'est jamais venu me chercher. Rémi, je crois que t'es quelqu'un qui partage peut-être ma passion, à la fois pour les nouvelles technologies, mais aussi pour le bon vieux papier. Et là, il y a des chercheurs de l'Université du Surrey qui ont trouvé un moyen d'avoir un espèce de mode hybride, soit une réalité augmentée. On a un écran et un livre en même temps. Est-ce que c'est l'avenir, le futur des gens qui aiment encore lire des bons vieux romans qui sentent la librairie?
J'espère que oui. Ben, en tout cas, bravo pour le diagnostic que tu fais sur ma personne, parce qu'en effet, sur les questions de lecture, je suis assez conservateur, voire, je le confesse, un peu réactionnaire. Pour moi, il y a quelque chose de presque érotique dans un livre papier que l'on touche, dans l'odeur de l'encre, du papier. Puis moi, j'ai décidé très tôt dans ma vie que je ne renoncerai jamais à ce plaisir-là. Puis encore une fois, ben, on a une nouvelle technologie qui se met à être développée. Puis je me demande, on parlait du métavers l'autre jour, je me demande encore à quoi ça sert exactement, quel genre d'objectif ça poursuit. Parce que si on veut sauver le livre papier, par exemple, ben, je pense pas qu'on va y arriver, là. On est en train de le dénaturer. Donc, c'est pas le livre papier qu'on va sauver, c'est qu'on va proposer quelque chose d'autre qu'un livre papier. Si on veut sauver la lecture, ben, selon la lecture que je fais de cette technologie-là, je pense pas qu'on va y arriver aussi, parce qu'on va essayer de la métisser avec du contenu numérique, des interactions toujours de plus en plus insistantes qui nous coupent de ce que la littérature est, c'est-à-dire une épreuve. Lire, là, c'est normal que ça soit plus compliqué que de regarder un film ou d'écouter une chanson. Ça a toujours fonctionné comme ça. Puis c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a moins de lecteurs qu'il y a de gens qui vont au cinéma, qu'il y a de gens qui se branchent devant leur télévision 5 heures par jour. Et donc, je ne sais pas si c'est réaliste de vouloir augmenter le nombre de lecteurs. Puis je pense que cette technologie-là, ce qu'elle risque de seulement être capable d'accomplir, c'est d'aller chercher une plus grande clientèle. La lecture, ça va toujours demeurer quelque chose de difficile, quelque chose d'ardu. Même un livre facile, comme un livre de Patrick Sénécal, par exemple, ça peut être plus facile que de lire du Balzac. La littérature, c'est une épreuve, il faut l'accepter, tout simplement.
Julia, qu'est-ce que t'en penses? Toi, es-tu premièrement une amoureuse des livres papier?
Mon Dieu, amoureuse, c'est même pas le mot. C'est quoi après amoureuse? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que ce serait vraiment ça. Puis pour moi,
une passionnée.
Plus que ça encore, tout ça et plus encore, parce que pour moi, les livres ont ceci d'important qui nous permettent vraiment de décrocher des écrans. On entre dans un autre univers, puis la lumière des écrans, ça fatigue. On passe nos journées devant nos ordinateurs. Alors, le livre physique, pour moi, est aussi une rupture avec le monde numérique, et mon Dieu, qu'on en a besoin. En tant que quelqu'un qui lit beaucoup, il y a aussi le fait que mon appartement est rempli de livres. Je sais plus où les mettre. D'ailleurs, s'il y a comme un auditeur, quelqu'un qui se porte volontaire pour venir m'installer une tablette, je suis preneuse. Mais ce que j'aime, c'est les regarder, les lire, les relire, les feuilleter, constater que mes livres préférés sont complètement détruits, les prêter à des amis, les offrir. Ils ont une vie, ces livres-là, ces livres physiques. Puis, on a tous des livres qui appartenaient à nos grands-parents, à nos parents, des vieilles éditions. Il y a quelque chose de très vivant dans une bibliothèque qu'il n'y a pas dans une liseuse qui tient tout seul sur une table de chevet ou sur une étagère. Donc, pour moi, cette rupture est importante et va continuer à l'être. Puis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait pour prêter des livres si on a une liseuse? Pour moi, c'est comme un enjeu assez grand qu'on ne pourra pas surmonter. Et il faut dire aussi que la liseuse répond à un problème qui n'existe pas, parce que l'industrie des livres se porte assez bien. Même au Québec, les chiffres augmentent. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Puis, c'est vrai que le livre papier est une exigence aussi. Mais Rémi a raison de le dire, c'est une exigence qui en vaut amplement la peine.
Qui en vaut la peine. Après ça, quand on crée ce genre de technologie-là, là, on parle d'une technologie hybride. Là. Fait que tu as ton livre papier, puis tu as ton écran à côté pour t'aider à aller chercher des liens, du contenu, des explications, peut-être pour mieux encadrer la lecture. Je me penche quand même un peu, là. J'ai des questions sur les applications réelles de tout ça. Est-ce que ça pourrait peut-être venir aider des gens qui sont, par exemple, dyslexiques, ont de la misère à se concentrer, des troubles, par exemple, d'attention par rapport au livre? Je sais pas, j'essaie de voir, est-ce qu'on crée un besoin avec une mode hybride comme ça, on répond à un besoin? Rémi?
Ben, en fait, c'est juste qu'à chaque fois qu'une nouvelle technologie est développée, ça peut venir aider un certain type de personnes. Tu sais, par exemple, je change de sujet, là, mais Elon Musk est en train de développer un espèce d'implant neuronal. Puis bon, officiellement, c'est pour aider des gens qui ont des problèmes, par exemple, de quadriplégie puis de paraplégie. Mais la vérité, c'est que ça va être transporté et transposé ailleurs par la suite. Donc, moi, si ça peut aider les dyslexiques, la réalité augmentée en lecture, mais bien sûr, sauf que le problème, c'est qu'après, c'est que ça devient tentant pour tout le monde. La grande majorité des gens qui n'ont peut-être pas de problème à proprement parler pour lire et qui vont s'emparer de cette technologie-là. Et là, c'est là qu'on entre dans ce que Julia vient de dire, la rupture. Et moi, j'ai peur de ça. Moi, je pense que la lecture doit demeurer une épreuve et doit devenir une réussite, un accomplissement, quelque chose qui est difficile à accomplir et au bout duquel on ressent une certaine forme de fierté lorsqu'on arrive.
Absolument. Julia, est-ce que toi, tu parviens même, tu es une grande lectrice, mais est-ce que tu parviens à faire cette rupture-là des écrans assez souvent à ton goût grâce à la lecture?
Au départ, non, parce que moi, je pense que le défi de la lecture, c'est un défi initial, parce qu'après, ça devient d'une facilité puis d'un naturel vraiment désarmant. J'ai pris l'habitude, parce que je pense qu'on en est rendu là, de mettre mon cellulaire dans une autre pièce quand je lis. Parce que sinon, je me trouvais toujours à chercher un mot, mais après ça, à finir sur Instagram par comme un mauvais sort qui m'est jeté par mon cellulaire. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui se travaille, vraiment la concentration, être présent dans le moment, et les livres nous permettent de travailler ça. Donc, plutôt que de répondre à notre besoin d'attention, il faut la travailler, puis les livres nous permettent de le faire. Donc, cette idée d'avoir un écran qui accompagne le livre, ça me réjouit pas vraiment parce que ça nous donne vraiment une possibilité d'être distrait. Puis l'idée du livre, c'est presque une méditation. Donc, si à moins que ce soit évidemment un livre d'école, là, ça pourrait être pratique. Mais bon, ouais, moi, je suis plutôt équipe livre-papier à la vie, à la mort.
Ouais, moi, dès qu'il y a un écran, là, mon trouble de déficit d'attention vire fou. Puis là, je me mets tout de suite à regarder l'écran, peu importe où il est. Je fais partie de ce club-là qui est sceptique par rapport à tout ça. Je vais parler rapidement avec vous d'une prise de bec qui s'est faite sur Twitter concernant, entre autres, Jean-François Lisée, hein, l'ex-chef du Parti québécois, et Alexandre Boulris, hein, député du NPD, par rapport à une publicité que Jean-François Lisée a dénoncée, publicité du HEC Montréal, qui a décidé d'afficher comme publicité une jeune femme qui porte un hijab pour tenter d'attirer les étudiantes algériennes à venir étudier ici au Québec. Il dénonce évidemment le fait qu'on utilise un outil, comme ça, un symbole religieux apparent qui parfois peut s'apparenter à un symbole de domination de la femme ou de soumission, d'être affiché comme ça pour la HEC Montréal. Il y a une prise de bec là-dessus. Julien, je voulais t'entendre. Qu'est-ce que tu penses de cette publicité-là?
Bien, je pense que la réaction de Jean-François Lisée démontre l'ampleur du problème et l'ampleur de la normalisation de l'islamophobie au Québec. C'est une publicité tout à fait anodine. Je veux dire, les étudiants ont le droit de porter des signes religieux. Le HEC réitère ce postulat et dit, ben, vous êtes les bienvenus. Il n'y a aucun problème. Puis, mon problème, c'est qu'on critique ce genre de publicité sous le couvert du principe de laïcité de l'État. Mais la laïcité de l'État, ce n'est pas, comme semble croire Legault et bien d'autres, et visiblement Lisée, d'empêcher des femmes de porter un signe religieux. C'est de permettre à tous de pratiquer leur religion librement. Mais au Québec, cette notion-là est vraiment difficilement intégrée. Pourquoi? Parce que les nouveaux arrivants intègrent un Québec non pas laïque, mais plutôt imprégné de culture et de principes hautement catholiques qui sont évidemment les vestiges des années de contrôle d'Église sur le peuple. Donc, l'intégration des immigrants qui pratiquent une autre religion a toujours été plus laborieuse parce que leurs valeurs sont perçues, consciemment ou non, comme étant une menace aux valeurs chrétiennes qui sont tellement profondément ancrées dans la culture québécoise. Donc, on s'en rend pas nécessairement compte, mais il faut absolument confronter ces biais. Puis c'est ce qui explique que des lois comme la loi 21 peuvent passer au Québec, alors que dans le reste du Canada, ce serait beaucoup plus difficile. Et évidemment, réduire le voile à un signe misogyne, c'est vraiment d'admettre son incompréhension d'un enjeu plus large, ça me rend toujours très mal à l'aise. Puis dès qu'on voit un voile, on saute aux conclusions. Il faut faire vraiment attention. C'est une étudiante voilée qui va aller étudier le commerce au HEC. Il y a vraiment rien à craindre là-dedans.
Rémi, t'en penses quoi, toi?
Ben, je pense que Julien vient de dire plusieurs choses qui sont vraies. Là. On n'a pas besoin de craindre que le voile s'étende chez les femmes à l'université. Par contre, le voile dans l'histoire de certains pays musulmans, ça demeure, et c'est des faits, c'est le réel, ça demeure un signe d'oppression des femmes. Donc ici, ce qui nous concerne, c'est la symbolique. Okay? Je le répète, on n'a pas besoin de craindre que le voile s'étende, mais par contre, en Iran, par exemple, avant 1979, les femmes pouvaient fréquenter l'université. Vous allez voir des vidéos sur Internet, les femmes marchaient avec des robes, se promenaient dans la rue. La révolution des ayatollahs est arrivée, le voile est devenu obligatoire pour les femmes iraniennes et pour les touristes. Donc, si vous vous rendez en Iran sans voile, vous allez voir, c'est pas juste une amende qu'on va vous donner. En Irak, le voile est devenu la norme à partir des années 90. Donc, sous l'Irak laïque de Saddam Hussein, les femmes pouvaient s'émanciper, pouvaient aller à l'université, pouvaient occuper des postes dans la fonction publique. Et à partir des années 90, c'est devenu plus problématique pour elles. Ce n'est pas obligatoire en Irak, mais c'est la norme. Vous vous faites regarder relativement croche si vous ne le portez pas. Donc ça, on a quand même besoin de le tenir en compte. Là, ça. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment une question de est-ce que le voile est un symbole d'oppression de la femme, parce qu'on rencontre plusieurs femmes en Amérique qui nous disent que non, puis moi j'ai pas envie de me mettre à leur place puis de leur dire ce qu'elles pensent. C'est pas la posture que j'adopte dans la vie, je laisse ça à qui, à vous savez qui, mais c'est quand même une réalité avec laquelle il faut savoir composer. C'est un symbole qui est lourd de sens, et pour le Québec, qui a quand même un complexe par rapport aux droits des femmes, parce qu'on a été parmi les derniers à accorder le droit de vote en 1940, ben on ressent quand même des relents de cette blessure-là lorsque le voile est affiché publiquement. Moi, je pense que ça n'a pas rapport dans une publicité d'une université laïque.
Ouais, c'est sûr, c'est lourd de sens. Peut-être que c'est utilisé un peu de manière banale comme ça dans une publicité en se disant oh, c'est une facette comme une autre d'une personne sans peut-être prendre en compte le sens qui est lourd. Bref, je ne pourrais pas me poser tout comme toi, Rémi, en juge et jury de cette situation-là, mais c'est certain que ça soulève des interrogations, puis d'avoir un débat sain à propos de ça, c'est assez essentiel. Merci, et merci à vous deux. Je vous souhaite une excellente journée, et Julia, tu nous écriras, Rémi et moi, on va venir te poser des tablettes en fin de semaine, là. Tu nous diras où tu les veux dans ton appartement. Hors de question merci. Que tes beaux livres traînent à terre.
Julia, tu risques de recevoir des messages très étranges aujourd'hui.
J'espère.
Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
187 cube radio.
1-877-827-2346.
Des données qui ont été obtenues chez nos collègues journalistes de la presse démontrent qu'il y a une hausse considérable en 2021 sur le territoire de plusieurs corps policiers du Québec d'infractions sexuelles commises par des mineurs et qui ont été dénoncées donc aux corps policiers. Et c'est pas qu'une petite augmentation. Si on parle par exemple de la Sûreté du Québec, la SQ, le nombre de dossiers ouverts annuellement pour ces crimes-là de nature sexuelle commis, je rappelle, par des mineurs, donc 18 ans, et moins, est passé de 439 à 2015 à 1439 l'an dernier, une hausse de 228%. Et cette hausse-là est énorme également du côté du service de police de l'agglomération de Longueuil, du SPVM aussi. Par rapport aux autres augmentations, c'est bien différent. C'est très, très marqué donc chez les jeunes. Avec nous pour en parler, Mélanie Lemay, cofondatrice du mouvement Québec contre les violences sexuelles. Bonjour, Madame Lemay.
Bonjour.
Tout d'abord, mais qu'est-ce qui fait que cette augmentation-là est particulièrement présente chez les jeunes, selon vous?
Mais en fait, de tout temps, les jeunes sont vraiment surreprésentés en agression sexuelle. Et il y a un collectif jeunesse qui s'appelle La Voix des jeunes contre qui disait au ministre de l'Éducation, écoutez, pandémie ou non, les violences sexuelles ne prennent pas de vacances. Et c'est vraiment essentiel de mettre de l'avant une loi pour protéger tous les jeunes. Parce que malheureusement, en ce moment, il y a comme une espèce d'impunité autour des jeunes qui commettent ces gestes-là. Ils n'ont pas accès à des ressources pour se responsabiliser et arrêter ces comportements-là violents. Et c'est très inquiétant parce que malheureusement, il n'existe pas d'aide ou de soutien à l'échelle du Québec pour les mineurs qui vivent des agressions. Et on sait, les chiffres sont là, que ce sont eux qui sont surexposés aux agressions sexuelles.
Quel rôle la pandémie a-t-elle pu jouer dans cette soudaine augmentation-là des crimes à caractère sexuel comme ça chez les jeunes?
Bien, c'est certain qu'il y a plusieurs facteurs. Tu sais, je pense entre autres au fait que pendant la pandémie, dans les périodes de confinement, des jeunes avaient accès à du matériel pornographique de façon beaucoup plus facile. Il n'y avait pas de surveillance. On a des témoignages de jeunes justement que leurs frères ou leurs sœurs ont répété sur eux ce qu'ils ont vu à l'écran ou des choses comme ça. Puis sans parler non plus des violences en ligne, donc le partage de photos qui est distribué sans le consentement de la personne. Tu sais, comme c'est assez particulier. Puis c'est ça aussi qu'on expliquait, c'est que qu'on veuille ou non, ces violences-là se produisent quotidiennement. Il y a des jeunes qui vivent avec les répercussions de ça aussi dans leur milieu de vie, à l'école. Donc, c'est vraiment dommage, en fait, qu'il n'y ait pas eu plus de la part de la société et du gouvernement pour protéger les jeunes.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire à partir de maintenant, comme vous le dites, pour aider, protéger nos jeunes?
Mais en fait, le ministre de l'Éducation, il se gargarise en disant qu'il a fait adopter un protecteur de l'élève. Mais le protecteur de l'élève, il ne va rien changer à au fait que ces agressions-là se produisent tout d'abord. Donc vraiment, la Voix des jeunes comptes, ce qu'ils disaient, c'est que ça prend une loi, ça prend des campagnes ciblées, ça prend en fait un corridor de services qui est intégré dans la vie des jeunes, parce qu'il faut aussi soutenir non seulement les jeunes qui font vivre ces agressions-là à d'autres, mais il faut soutenir aussi les parents. Des deux côtés, parce que c'est une immense pression qui est mise sur les épaules de la famille, des jeunes. Donc, je pense que c'est vraiment important de faciliter l'accès aux soins. Et c'est vraiment ça aussi qui est porté par la Voix des jeunes comptes.
Cette augmentation-là, où ça peut sembler peurant à prime abord, mais ça peut également représenter peut-être une bonne nouvelle, on imagine, parce que ces crimes-là, comme vous dites, ils arrivent de toute manière, mais sont cette fois-ci, là, c'est ceux qui sont rapportés par la police qu'on comptabilise. Considérez-vous que c'est une bonne nouvelle?
Ben moi, ce que je considère, en fait, c'est que c'est un indicateur, c'est une variable qui est encore à explorer. Moi, je serais pas prête à faire un raccourci comme celui-là, parce qu'on sait très bien aussi que quand on parle à des jeunes qui ont, même si ils ont rencontré des policiers ou que la plainte, elle a évolué, ce qu'on constate quand on les écoute, c'est beaucoup de traumatismes qui en découlent. Parce que on exige des jeunes, en fait, de s'asseoir face à leur agresseur, souvent, de s'exprimer, de parler, d'accepter leur excuse, parce que ce qui est en vigueur en ce moment, c'est la politique contre l'intimidation, tu sais, quand ça se produit à l'école. Donc, c'est des solutions qui sont complètement inadaptées. Puis quand on pense à toutes les discussions qui ont eu lieu par rapport au tribunal spécialisé, qu'il faut éviter le plus possible la révictimisation ou d'exposer une victime à son agresseur dans le cadre des procédures, mais ce qu'on constate, c'est que dès qu'il y a un dévoilement d'agression, le jeune se fait lancer devant un policier de façon très froide. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'accompagnement. Fait que ça nuit aussi à quand il fait son témoignage. Donc, ce qu'on constate, en fait, c'est plutôt une sur-victimisation, une double victimisation et des traumatismes qui en découlent parce que, justement, il n'y a pas eu de discussion à comment on peut accompagner mieux les jeunes, tant dans le système qu'à l'école.
Et au niveau de la prévention, en terminant, là, Mme Lemay, qu'est-ce qu'on peut faire en amont? Là? Évidemment, vous parlez d'accompagner, c'est sûr que ça prend plus de mesures pour protéger, mais au niveau de la prévention, est-ce qu'on est assez avancé, vous trouvez, au niveau de l'éducation qui est faite au niveau de violences sexuelles chez nos jeunes?
Absolument pas. On est vraiment en décalage entre le contenu auquel les jeunes sont exposés. Tu sais, on serait étonné de la violence qu'ils portent en eux là, quand on s'intéresse à vraiment les écouter. On constate qu'il y a des agressions sexuelles dès l'école primaire, dès le préscolaire. Moi, je pense que vraiment, c'est essentiel de mieux outiller les jeunes pour qu'ils puissent être capables de nommer les agressions qu'ils vivent, d'être capable de nommer adéquatement aussi chez les tout-petits leur partie intime pour qu'ils puissent le nommer clairement, mais aussi, il va falloir qu'on forme les éducateurs, les équipes écoles pour qu'ils soient en mesure de recevoir les dévoilements et diriger entre les bonnes mains. Parce que beaucoup d'enfants en ce moment qui vivent des agressions ou qui sont dans le silence se font faussement diagnostiquer comme TDAH ou ayant des troubles de comportement, alors que c'est un appel à l'aide. Donc, je pense que vraiment, il va falloir qu'on utilise en fait tout le réseau scolaire.
Mélanie Lemay, cofondatrice du mouvement Québec contre les violences sexuelles, merci beaucoup de nous avoir expliqué la problématique.
Ça fait vraiment plaisir. Au revoir.
Au revoir. C'est ce qui conclut notre émission aujourd'hui. Beaucoup d'actualités à venir aussi dans la journée. Je penserai à vous lorsque je serai tout près du tennis et je décortiquerai tout ça demain matin avec Mathieu Boulay. Retrouvez-nous 9h. Comme d'habitude, je vous laisse entre les mains de mon collègue Alexandre Dubé. Merci à toute l'équipe d'avoir été avec moi. À demain.
Cube Radio.